Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt. Les mecs que je veux ken. Chères auditrices, chers auditeurs, mes amis, bienvenue dans ce 7e épisode de mon édition spéciale Les meufs que je veux ken, avec Pénélope Bagieux, magnifique personne. J'ai adoré préparer ma rencontre avec Pénélope. Ça m'a permis de tourner ma curiosité vers quelqu'un d'autre que moi. C'est éreintant de faire de l'autopromo pour son spectacle, d'aller au casting, pour vendre sa gueule, son corps, sa voix, en espérant être choisie, attendre désespérément une réponse. Dieu sait que j'aime raconter ma life, mais j'ai aussi vraiment besoin de me passionner pour la vie des autres. Comme le dit Jane Fonda, « Ask questions, stay curious, it's much more important to stay interested than to be interesting ». Quelques éléments de compréhension pour que vous appréciez cet épisode. Le mieux est que vous l'écoutiez après avoir lu la BD de Pénélope culottée, parce que l'on parle beaucoup de ces personnages, ces femmes ayant existé. Bon, si vous ne l'avez pas encore lu, que vous comptez à tout prix l'acheter et l'offrir à vos proches après cet épisode que vous mourrez d'envie d'écouter, soit d'accord. Je vous brief rapidement sur quelques femmes dessinées, racontées par Pénélope et dont on parle dans l'épisode. Nellie Bly, née le 5 mai 1864 en Pennsylvanie et morte le 27 janvier 1922 à New York, est une journaliste américaine, pionnière du reportage clandestin, une forme de journalisme d'investigation. Elle a réalisé seule un tour du monde en 72 jours sur la fin de l'année 1889 et le début de 1890. Eddie Lamarr, née Hedwig Kissler le 9 novembre 1914 à Vienne et morte le 19 janvier 2000 en Floride, est une actrice et inventrice autrichienne naturalisée américaine, désignant en son temps entre guillemets la plus belle femme du monde. Au cours de sa carrière cinématographique, elle a joué sous les directions des plus grands réalisateurs de l'époque, King Vidor, Jack Conway, Victor Fleming, Jacques Tourneur, Marc Allégret, Cécile B. 2000 ou Clarence Brown. Outre sa carrière au cinéma, elle a marqué l'histoire scientifique des télécommunications en inventant un moyen de coder des transmissions par étalement de spectres, ancêtre des techniques toujours utilisées actuellement pour les liaisons chiffrées militaires, la téléphonie mobile, le GPS ou la technologie Wi-Fi. Ou encore Peggy Guggenheim. Peggy est une mécène américaine, collectionneuse d'art moderne et galeriste. Née le 26 août 1898 à New York et morte le 23 décembre 1979 à Camposiero dans la province de Padoue, près de Venise, où elle a passé les dernières années de sa vie. Autodidacte en art moderne, elle a appris avec des amis comme Marcel Duchamp ou Jean Cocteau à apprécier l'art abstrait, dont elle a ensuite fait la promotion avec beaucoup de discernement, allant à l'encontre même de son oncle Solomon Guggenheim, qui mettra un certain temps avant de reconnaître la valeur des acquisitions de Peggy. Elle a ouvert une galerie à Londres sous le nom de Guggenheim Jeune, encourageant les artistes alors peu connus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, usant du prestige de son nom et de sa nationalité américaine, elle a sauvé un grand nombre d'artistes pour lesquels elle a obtenu de faux papiers et elle a financé leur passage aux États-Unis. On parle aussi de Frances Glessner Lee, de Foulon Devi, de Nazi Galhabid, que vous connaissez peut-être, sinon le mieux, et que vous les découvriez dans Culotté ou dans les mots là tout de suite de Pénélope. J'espère que notre enthousiasme vous sera contagieux. Bonne écoute.
Parce que en effet, j'ai pu t'écouter. Je t'ai écouté chez Sophie Marie Laroui.
Ah, c'était chez eux, ça.
Et je t'ai écouté dans La Poudre.
C'était aussi pas chez moi.
Et je t'ai écouté sur Le Goût aime le magazine.
Ah, ça c'était ici.
Ah, c'était ici. Ça, ben oui, parce que.
Oui, puisqu'on parlait de mes livres.
C'est ça. Et je me demandais, comme tu disais que t'avais déjà déménagé, je me demandais si c'était déjà cet appartement.
Ouais.
Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ce sac et en fait, il y a une petite poche où tu peux mettre plein de trucs et en fait, elle est trouée.
Ah, dans la doublure ?
Oui, dans la doublure. Donc, t'as tous les trucs mélangés. C'est clair. Bah, je retrouve des trucs d'il y a 50 ans, mais en même temps, c'est des bonnes surprises. Ah ouais, c'est clair. Parfois, c'est un peu de thune, ça, c'est sympa. Je crois qu'on est bon. Voilà. J'ai plus qu'à brancher.
Super. Donc ça, je me mets là.
Oui, tu peux le mettre là.
comme ça.
Nickel.
Ça.
Ouais.
Là, voilà.
Sophie Marie Larue m'engueulerait parce que mes câbles sont emmêlés.
D'accord. Et il faut pas.
Bah, les filles, elles disent il faut pas, mais.
Est-ce que ça.
Ils s'emmêlent très vite les câbles quand même. Non, je crois que c'est une super sauce. Enfin,
ah, ok.
C'est pas.
C'est pas genre ça abîme le son.
Non. En principe, c'est mieux de les avoir détendus, mais c'est pas. On se trouve dérangé. Je vérifierai. Je vais vérifier quelque chose, c'est que ici, si on est dans le. On n'est pas trop dans l'est de Paris. En principe, je ne devrais pas avoir d'interférence.
Parce que ?
Parce que chez moi, donc à Bagnolet, je suis juste derrière les Mercuriales.
Ouais.
Et en fait, mon Zoom ne remplit pas du tout sa fonction de Zoom vu qu'il fait radio. Donc c'est très très chiant. C'est qu'en fait, il capte, il y a des interférences.
Alors, ah ouais.
Je te jure, je suis limite devenue complotiste, quoi. Parce que j'en ai eu mon père qui est venu et qui m'a dit « Ouais, c'est pas les Mercuriales, c'est la DGSE. » Et il est mixeur son, hein, c'est pas, il est pas du tout. Il m'a dit non,
on n'est pas retraité.
Ouais, non, parce que ouais, il est pas, enfin, on ne pense pas que Macron est un lézard ni rien, mais il m'a dit non, tout l'est parisien, les signaux sont floutés par la DGSE qui capte des trucs. Il m'a dit c'est impossible d'avoir un bon signal radio dans tout l'est, tout l'est de Paris. Ouais, c'est ouf. Hein.
Ouais.
C'est un peu.
Très bureau des légendes, comment
bah, très bureau des légendes et très Stranger Things, quoi, ouais, tu vois. Ouais. Parce qu'en effet, moi au départ, je comprenais pas. J'étais là, j'écoutais l'invité. Alors là, j'espère que normalement, c'est à moi de le faire. Je vais tout de suite vérifier.
Est-ce que tu es bien assise pas...
Ah ouais.
Plus de coussin.
Ah non, c'est super. Et je veux bien que tu dises quelque chose juste dans le micro.
Ouais, écoute, qu'est-ce que je peux dire? J'ai mon meilleur ami, dont le chien vient de passer au JT de Jean-Pierre Pernaut.
Quoi?
Ouais.
C'est incroyable.
Il envoie la capture, il est trop fier.
Ah ouais, c'est la classe.
Ouais. Il est trop content, je suis très fier pour lui. Voilà, je sais pas quoi
je
lui
peux
dire.
Voir la photo?
Bah en fait, ouais.
Et maintenant, un anniversaire qu'on voulait.
En fait, il a adopté un chien à la SPA.
Ouais.
Et ils ont fait un reportage sur cette SPA et ils sont venus filmer chez lui.
Ah, c'est lui. Oh, mais magnifique en plus.
Pierrot, 12 ans.
Pierrot, 12 ans.
Ses maîtres l'ont choisi malgré son âge et sa suavité.
C'est hyper woke, hein, comme TF1, t'as vu, ils font des trucs chez des couples longs.
Ouais, c'est cool.
Arrêtez d'acheter.
Mais ça va dans le bon sens, j'ai vu aussi une pub genre pour un gros truc.
Ouais, pareil,
et c'était des couples gays et en plus de couleurs. Donc ouais. J'étais là genre, ah putain, ça donne espoir, finalement. Il faut... En tout cas, c'est parfait. Et ce qui est chouette, c'est que je n'ai pas d'interférence. Comme quoi...
Ouais, avec mes gros murs.
Grave. Ouais, peut-être que c'est ça aussi. Peut-être
que c'est les gros murs.
Ah, mais peut-être parce que c'est un vieil un immeuble quand même haussmannien, non? C'est 18e, 19e. Et donc...
Je pense qu'ils avaient pensé à ça dans la construction. Ils s'étaient dit.
Je sais pas s'ils ont pensé à la construction, mais en tout cas, moi, c'est un immeuble des années 70 plus populaire. Je pense que c'est la différence entre les pauvres et les riches.
C'est la résistance aux ondes radio.
Ouais, peut-être. Tu sais, ça va se transformer en Irine Brokovitch, en fait, je vais aller faire un procès au Mercurial.
Hein.
Alors, je t'ai écrit un petit poème, Pénélope. Alors voilà. Je me dis que maintenant, j'allais faire un petit cérémonial d'enveloppe. Parce que j'osais pas le faire pour les autres.
C'est dommage, les gens n'ont pas ça, ne savent pas que c'est dans une jolie enveloppe avec un petit ruban et tout ça.
Bah, c'est nouveau, c'est pour toi, en fait.
Ouais.
Pénélope m'apparaît romantique, amoureuse, pudique, privée, timide, élégante, mystérieuse, classe, ultra-intelligente. Un mélange de tous ces personnages de culottés. L'impression que Pénélope a un peu de la naïveté renfermée de Temple Grandin, du courage de Sonita qui traverse le monde, se sauve à l'étranger, de l'intuition d'Eddie Lamar qui ne veut pas être réduite à sa beauté, de la détermination de l'avocate Jesslyn Radack qui sent bien qu'elle a raison. Ce qu'il y a d'incroyablement jouissif dans chacune des histoires de culottés, c'est le moment où l'héroïne surmonte les obstacles pour trouver son talent et fait de sa sensibilité, sa colère, sa frustration, son complexe ou son autisme un super pouvoir. Ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que les femmes que tu as choisi de mettre en lumière sont souvent très libérées sexuellement, comme Joséphine Baker ou l'impératrice Wu Zetian qui s'offre le père, puis le fils, puis des frères plus jeunes qu'elle. Mais cette liberté a un prix. Comme tu le fais dire à Peggy Guggenheim, les artistes couchent avec tout le monde, mais moi, je suis une traînée. Et j'en viens un peu à ma question du jour. Pourquoi les femmes, pourquoi des femmes si brillantes sont généralement si malheureuses en amour? À part le couple de volcanologues, Clémentine Delay, barbée et bien mariée, ou Tove Jansson qui trouve une compagne exceptionnelle, elles souffrent. Frances Glessner-Lee s'accomplit en créant ses formidables miniatures après son divorce,
Pareil pour Delia Akeli, qui a une deuxième vie d'exploratrice plus apaisée, sans Carl, seule. La solitude de Bette Davis, censurée. Alors oui, il y a la misogynie de la société, mais toi, Pénélope, comment as-tu appris à t'entendre avec les hommes? Et est-ce que, par exemple, tu te souviens de ton premier chagrin d'amour?
Ouais, c'est beaucoup de questions.
Ah ouais.
Merci, beaucoup. C'est trop gentil ce que tu as dit au début.
Ah bah, je le pense, vraiment.
C'est trop gentil. Enfin, ce que tu as dit au complet, d'ailleurs, mais c'est très gentil. C'est vrai que elles ont ça en commun beaucoup, les culottées, c'est que ça démarre pour elles quand elles se débarrassent du mec.
Ouais, ça c'est fou.
Ouais. C'est terrible parce que quand je les lisais, leurs histoires, au fur et à mesure, presque je cochais, je me disais, et allez, encore une qui s'est fait casser les couilles par un mec et il a fallu qu'elle soit seule pour commencer à faire des trucs, c'est terrible. Hein.
C'est terrible.
Et si tu regardes bien celles qui avaient l'amour dans leur vie, c'était toujours des histoires soit...
Très éphémères, très
lointaines, tu vois, ouais. Ils ont un truc un peu... soit ils meurent très vite,
ouais.
Soit ils s'aiment, mais bon, ils n'ont pas une place très importante dans leur vie, et puis... Ouais, je crois que c'est... Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas la place et le temps et l'énergie pour tout? Ou est-ce que c'est parce que, dans leur cas à elles, il y en a beaucoup, si c'est parce qu'à cette époque-là, c'était aussi des mecs qui les empêchaient de faire des choses?
C'est ça. Ben c'est ouais. Qu'il y a beaucoup de jalousie en fait quand même, enfin où tu sens qu'il...
Ouais, ou de conventions sociales qui ouais. Disent occupe-toi plutôt de ta famille et tout ça. Mais tu sais, dans l'autobiographie de Simone Veil, c'est ce qui m'a vachement rassurée presque sur le fait que c'est pas parce qu'elle avait une main de départ différente des autres femmes aussi. Quand même, son mec, qui est son mari, il veut qu'elle s'occupe des enfants et qu'elle ne travaille pas. C'est quand même ça aussi le background de Simone Veil. C'est qu'il lui dit, bah écoute, tu vas pas te mettre à... Elle veut passer le concours d'avocate, il lui dit, avec 3 enfants, vraiment, t'es sûr? Et elle dit, non, bien sûr, c'est vrai, mon rôle, c'est de m'occuper de mes enfants. Et les premières années, alors que c'est une méga tronche bac plus 18, elle commence d'abord par s'occuper de ses gosses. Et après, elle ruse et elle lui dit, tu sais, j'ai pensé à un truc que je pourrais faire qui me prendrait pas beaucoup de temps et qui m'éloignerait pas trop de la maison, c'est la magistrature. Et comme lui il est un peu concon, il se dit oui, après tout ça te prendra moins de temps qu'avocate. S'il avait su pourquoi il signait, puisque c'est là qu'elle démarre sa carrière politique en fait. Mais à la base, l'argument avec lequel elle a négocié pour pouvoir travailler, c'est-à-dire que de se dire Simone Veil a dû négocier auprès de son mec pour aller bosser, je trouve que ça met en perspective quand même.
Totalement, c'est dingue.
C'est fou, hein. On se dirait, bah, elle a dû avoir, elle,
du soutien
d'un mec qui lui a dit, t'inquiète pas, ma chérie, je m'occupe de tout,
grave.
Va sauver le monde. Non, elle aussi, elle avait à la maison un mec qui disait, et qui c'est qui va faire la vaisselle pendant ce temps? Et c'est fou, quoi. Donc,
c'est fou. Ça me donnera envie que peut-être tu fasses genre un opus sur c'est qui les hommes de l'histoire qui ont soutenu et encouragé, mais vraiment sincèrement.
Derrière chaque grande femme, il y a un grand homme.
Oui, voilà. C'est qui est-ce qu'il y en a?
Bah, tu vois, typiquement dans les culottés, il y a un des personnages, Nazik, qui est syrienne, et elle fait sa vie sans mec.
Ouais.
Et au bout d'un moment, il y en a un qu'elle rencontre via le militantisme,
voilà.
Qui lui, dès le début, est vraiment full support, c'est l'allié.
Ouais.
Quoi. C'est
ouais.
Qui lui dit, moi, déjà, je vais financer tes bouquins,
ouais.
Moi, je suis à fond, je suis féministe, il est super. Et du coup... Lui, ok, il peut partager sa vie, quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est d'ailleurs un peu sur le tard. Enfin, c'est pas
les premiers... Ouais, c'est ça. C'est pas... Non, bah, elle elle a fait d'abord passer son engagement en se disant... Pour le reste, on verra après. Et puis, c'est aussi des femmes qui n'étaient pas forcément méga pressées de se marier. Mais j'imagine que ça devait être tellement compliqué socialement à l'époque de dire...
C'est ça.
Je choisis de ne pas me marier. Ou comme justement, tu vois, tu parlais de Tove Jansson qui dit... je sais que je ferai une très mauvaise épouse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être plutôt une bonne artiste. Donc, tant pis. Bon, en plus, en l'occurrence, elle aimait pas les mecs. Mais...
Non, en plus, elle aimait les femmes.
Mais,
Et t'as l'impression que, d'ailleurs, ceux qui sont pas hétéros sont peut-être même des vies plus heureuses amoureusement ou je sais pas, dans les personnages trans, où j'ai l'impression que... ou chez les... Je sais pas. Mais c'est vrai que les hommes, au sein de leur couple, mais jusqu'à récemment, enfin, en tout cas, chez les culottés, c'était frappant. Après, elles sont pas... en effet, elles sont... Même Thérèse, tu sens que pour s'accomplir, ça passe par une solitude obligatoire.
Ouais.
Quoi.
Ouais, puis elle a été mariée de manière très traditionnelle, bourgeoise. Elle s'est mariée avec son premier mec. Il lui a fait une flopée de gosses et puis elle est restée à la maison. Et en fait, elle a le courage de s'avouer que ça lui convient pas comme vie, ce qui devait être quand même compliqué à l'époque.
C'est fou.
Se dire, en fait, je m'emmerde.
Ouais.
J'adore mes enfants, mais mon mari m'emmerde. Et du coup, elle se jette à corps perdu dans le militantisme. Elle aussi pourrait finalement se rendre compte qu'elle est lesbienne. Mais...
Ouais.
En plus, mais...
C'est dingue,
oui.
C'est dingue. Et c'est vrai que c'est... Ça rend fou. Moi, ma grand-mère, alors qu'elle n'était pas, tu vois, une culottée dans le sens où elle s'est pas bagarrée.
Ouais.
Mais, enfin, elle a, enfin, Elle a tellement souffert avec mon grand-père, c'était un monstre, quoi. Mmh. C'est vrai que c'était une femme magnifique. La mère de ma mère, c'était une femme sublime. Tu vois, il y a des photos, elle était quand même la fiancée de Romain Gary.
Ah ouais ?
Donc, ouais, parce que en fait, c'était une princesse, quoi. Son père tenait l'hôtel Hermitage à Nice. Donc, la petite boutique de la mère de Romain Gary, c'était dans cet hôtel. Et donc, elle a promis à la mère de Romain Gary sur son lit de mort d'épouser son fils. Bon, la vie en a voulu autrement. Il est parti en Angleterre. Mais donc, elle était super belle. Alors, pas du tout branchée études et très, très seule, pas trop avec ses frères et sœurs. Et ses parents ne s'occupaient pas trop d'elle. Donc, c'était sa gouvernante et qui était très, très catho. Et donc, il l'amenait faire beaucoup de choses pour les pauvres. Donc, elle était vachement là-dedans. Mais tu vois, t'as des photos d'elle sur la promenade des Anglais, elle se tenait hyper droite parce qu'en fait, dans les jardins de l'hôtel, elle s'entraînait à marcher avec un balai pour, tu sais, qu'elle tenait derrière les mains comme ça pour bien se tenir droite. Et ensuite, il y a eu la guerre. Et là, elle épouse donc mon grand-père, que j'ai peu connu, j'ai surtout connu elle. Et en fait, il se trouve qu'il l'épouse pour sa fortune. Il était pétainiste, antisémite, mais il lui fait un an de cours assidus. Et elle se dit, il est très intelligent, et donc il se marie. Du jour où ils se sont mariés, il l'a éloigné de sa famille, il a pillé sa fortune, et il a fait 8 enfants. Ma mère, c'est la 8e. Mmh. Et en plus de ça, il l'a persuadée qu'elle était moche. Mmh. C'est-à-dire que le travail de sa vie, ça a été de persuader ma grand-mère qu'elle était moche et qu'elle était conne. Mmh. Et résultat, quand j'ai demandé, mais... L'un de ses plus beaux souvenirs, en fait, ça a été quand une fois... Lui, il était prof, donc il était brillant, il parlait plusieurs langues, puis il était super avec ses élèves, pas avec ses enfants. Et une fois, elle va quand même à un dîner avec des collègues à lui, et l'une de ses collègues lui dit « Vous avez rencontré Alain à la fac ?» Et c'est l'un des plus beaux jours de sa vie parce que quelqu'un aurait pu penser qu'elle a fait des études tellement elle se sentait conne. Et c'est fou, quoi.
C'est marrant, j'ai les mêmes grands-parents que ce que tu décris. Vraiment.
C'est vrai.
Ouais.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avec pareil, c'est marrant, je parlais d'elle tout à l'heure avec une amie et je lui disais, mais tu te rends compte que ma grand-mère, moi en fait, c'est un aparté, mais quand je me suis rendu compte de tout ce que tu décris, parce que moi je les ai connus, mes grands-parents, et ma grand-mère qui était sublime, un ange en plus, d'une bonté incroyable, mais avec pareil, tu vois, très peu éduquée, et mariée à un gros con vraiment, hein, et qui la rabaissait tout le temps, qui avait vraiment tiré le gros numéro en fait, et qui lui était. Voilà. Et j'ai commencé à m'engueuler à mort avec mon grand-père quand j'ai eu 13-14 ans, parce que je trouvais qu'il lui parlait tout le temps mal alors qu'il ne la méritait pas et qu'elle était tellement mieux que lui. Et donc ça commençait à bouillonner. Je me disais, mais tu peux arrêter de lui parler aussi mal? Il faisait que lui dire, c'est froid la bouffe, tu vois, des trucs comme ça. Je me disais, mais ta gueule, bouge ton gros cul, va à la cuisine, arrête de nous emmerder.
Et en fait, c'était ma première expérience de. Je pense vraiment du gros patriarcat dégueulasse. Et du coup, ça me rendait folle déjà à 14 ans. Et j'arrivais plus à finir une bouffe chez eux en restant à table jusqu'à la fin du repas. On se gueulait tellement dessus. Et en plus, c'était aussi mes premiers contacts avec le mansplaining, puisqu'à chaque fois, ils me disaient, écoute ma petite, quand tu auras l'âge de nénénia. Et en fait, ça me faisait péter des câbles. Wow. Et je me disais, mais quelle espèce de gros con et tout. Je disais à ma grand-mère, mais pourquoi tu te casses pas? Pourquoi tu te casses pas à une femme de cette génération? Eh bien, pour mille raisons, Pénélope. Déjà, parce que je n'ai pas fait d'études et que je n'ai pas d'argent. Et en fait, ça me rendait folle. Et je me disais, comment tu peux te retrouver dans les pattes?
Comment elle peut s'en sortir?
Une saloperie pareille.
Ouais.
Et après, c'est ta vie, en fait. Et donc, elle avait été tellement gaie et joyeuse, toujours à dire, mais tu sais, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Et puis, aujourd'hui, il fait beau, c'est l'essentiel et tout. Je me disais, mais cette résignation à te dire, il n'y a rien de plus à attendre de la vie, en fait. Mmh. Un mariage, c'est ça, en fait. Mmh. Un mariage, c'est un mec qui te fait des gosses, et puis c'est comme ça, quoi. Puis, il n'est pas très sympa, mais on apprend à vivre ensemble, tu vois. Enfin, ça me paraissait fou. Et je pense que ça m'a donné des idéaux romantiques extraordinaires, tu vois, de me dire, quelle grosse vie de merde.
Ouais.
D'être mariée avec un mec qu'avec le temps, tu as appris à apprécier.
Ouais.
Quel enfer.
Ouais.
Et d'ailleurs, ma grand-mère, qui n'était pas du tout féministe et qui était vraiment, tu vois, une femme d'intérieur, hyper... qui questionnait pas du tout ces codes-là, le seul truc qu'elle m'a dit toute mon enfance à ma sœur et à moi, c'était ne dépendez jamais financièrement d'un homme. C'était vraiment son obsession, quoi. Tu dis, tiens, ça sent le regret, hein.
Ouais, c'est
quand
clair.
Tu dis ça comme ça. Elle était vraiment genre, non, les filles, t'es limite, tu lisais cligne des yeux pour dire help, quoi. Elle disait, et voilà les filles, faites des études. Voilà, parce qu'elle était vraiment coincée dans un truc pourri, quoi. C'est trop triste.
Elle a, parce que ma grand-mère a réussi, attends, mais tard, hein, vers passer 60 ans. Ouais, peut-être vers 60. Elle a réussi enfin à divorcer.
Ah, c'était très rare.
Et c'était hyper rare. Bon, ils battaient ses enfants, les garçons.
Oui, donc elle avait une bonne raison, officiellement, je veux dire.
Bah, ça, cela dit, c'était même pas pour ça. Et je pense que ça a été ça a une culpabilité énorme, en fait, d'avoir été complice de ça, d'une certaine manière. Et non, elle a réussi à s'en débarrasser parce que c'était un grand malade. Il était, il mangeait pas pareil que ses 8 enfants. Donc lui, il avait des produits traiteurs et les autres avaient des boîtes. Mmh. Et si jamais il tombait, il avait oublié qu'il avait ouvert le pot de miel ou le pot de couverture, de confiture, il pensait que quelqu'un l'avait mangé à sa place. Et donc j'ai un oncle qui a gardé des lettres. Parce qu'en plus, il était très intelligent, mais vraiment, il se servait de son intelligence pour le mal, quoi. Il disait... Quelqu'un a ouvert le pot de confiture. J'aimerais que cette personne se dénonce. Et donc, il attendait une journée et il faisait un tribunal où les personnes se dénonçaient, puisqu'il se trouve que c'était. Enfin, personne n'osait. Et donc, il faisait signer, il disait aujourd'hui, je stipule que personne. Donc, il inventait une. Et ensuite, il faisait signer à tout le monde je n'ai pas révélé, je n'ai
Qu'est
pas. Tu te rends compte? Et donc, elle a réussi à divorcer à ça. Et ensuite, la deuxième moitié de sa vie, elle était la plus heureuse, en fait. Quand elle était avec ses enfants, ses amis, et puis elle, les hommes, c'était... Enfin, elle a pas... Alors après, ça en faisait par contre quelqu'un de pas du tout romantique, quoi. Enfin,
elle devait être un peu guérie, hein, j'imagine.
Ouais, guérie et ne voulant plus être proche. Et puis, comme toi, quand j'ai eu un petit copain à un moment, et elle m'a dit, attention, hein, ne vous mariez pas trop vite, fais attention, sois sûre d'en avoir vraiment envie... Alors qu'elle était pas non plus, qu'elle était gaulliste, bourgeoise, pas engagée, pas militante, mais avec cette intuition, quoi, de vouloir autre chose. Et c'est fou, quoi. C'est fou. Alors après, aujourd'hui, c'est différent, mais il y a encore, énormément de jalousie. Est-ce que toi, t'as réussi? À trouver des hommes féministes, sincèrement, c'est-à-dire des... Non. C'est fou.
Ouais, non. Alors, ça tend à s'améliorer maintenant. Mm-hmm. Tu vois, un climat où c'est plus... Ils réfléchissent plus à ça. Et puis, moi, je sais mieux discerner aussi, tu vois. C'est que maintenant, ça devient un critère. Pas le fait qu'ils se disent féministes, parce que ça, au contraire, je m'en méfie comme la peste. Mais plutôt me dire... c'est-à-dire qu'une somme de... Une somme de défauts et de situations compliquées avec les hommes qu'avant j'identifiais pas bien. Maintenant j'ai compris qu'en fait c'était plein de facettes du même problème qui était ça. C'est-à-dire de dire il a des côtés un petit peu. Alors ça va, tu vas avoir une liste de petits problèmes et de situations où à chaque fois ça pète pour des conneries. Et au bout d'un moment tu dis ah mais en fait c'est toujours ça le problème. Le problème c'est toujours un problème d'éducation et d'image qu'ils ont des femmes et de ce qui pour eux est la. En fait, de problème avec leur propre masculinité clairement.
Ouais.
Et où tu dis mais en fait tant que tu n'auras pas réglé ça dans la mesure où moi je ne suis pas une professionnelle qui est là pour te soigner, ça va, je vais arrêter parce que je n'ai pas du tout envie de passer ma vie. À combler tes blessures que tu dois aller régler toi-même, en fait.
Ouais.
Globalement, je pense que la vraie perle chez les hommes hétéros de ma génération, c'est ceux qui ont fait une thérapie.
Ouais.
Voilà, à partir de là, déjà, on a gagné beaucoup de temps.
C'est clair.
On va passer moins de temps à les aider à démêler des trucs, accoucher de trucs sur lesquels ils n'arrivent pas à mettre des mots. Et je dirais qu'une qualité qui vraiment change la vie dans un couple aussi, c'est des mecs qui sont un peu connectés à leurs émotions, qui savent les nommer. Et que ça ne terrifie pas, et quel temps gagner pour tout quand ça existe. Et parce que c'est quand même un boulot que, en général, les femmes, on a été très très habituées à faire, bien malgré nous d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le choix de devoir se démerder avec nos problèmes personnels. Donc on a appris à le faire, et quand on arrive à mon âge, c'est-à-dire la quarantaine, c'est un truc qui est géré en général. On a toujours plein de problèmes, mais on les a à peu près identifiés, Et on a un peu craqué le code de mmh. d'accord, à chaque fois ça me fait péter un câble pour cette raison, voilà. Mmh. Et du coup, se retrouver face à quelqu'un qui en est là où nous on en était à 16 ans et demi, moi j'ai plus l'énergie en fait.
Ouais, c'est clair.
Et d'arrêter de me dire l'essentiel c'est qu'il soit hyper gentil, hyper intelligent, hyper drôle, oui, évidemment. Ouais. Mais en fait, s'il manque ce truc là, tout le reste ne sert à rien.
C'est
parce
clair.
Que. On va avoir une relation dite compliquée, je fais des guillemets avec mes doigts, ou une relation fatigante, une relation très intense où on se dispute beaucoup. On perd du temps.
Ouais.
Mais bon, j'aurais bien aimé le savoir à 21 ans.
Ouais.
Maintenant, mais voilà.
Ouais, t'en as fait les frais
Pas tant, finalement, parce que moi, j'ai eu des copains super, et puis j'étais toujours... Enfin, j'ai jamais eu un sale type, tu vois, j'ai, pas, eu de, j'ai pas un passé avec des gros cons.
D'accord.
Ou des trucs qui se sont vraiment mal passés, mais plutôt, je me suis vachement épuisée dans des relations à essayer de combler ces trucs-là.
Ouais.
Et certainement qu'il y avait plein de choses aussi qui étaient une question d'immaturité de ma part et tout ça, mais... Dans mes relations, et même dans celles que j'ai observées chez mes copines, puisque évidemment on en parle tout le temps, et notamment on en parle rétrospectivement, tu vois, de se dire qu'est-ce qui a merdé et tout ça, et ben il y a quand même beaucoup de moments où on s'est retrouvées toutes dans une, face à un mur de là, à partir de là, je peux vraiment plus rien pour toi en fait. C'est que si tu veux pas, une fois que t'es devant cette porte, si tu refuses de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a derrière, moi c'est pas mon métier quoi.
Bien sûr.
Tu vois, c'est.
Et est-ce que t'as déjà senti. De la jalousie de la part de petits copains qui avaient du mal à supporter tes succès parce que t'es chevalière des arts et des lettres. Enfin, je veux dire, t'as...
Chevalière, ça rend les gens très jaloux. Hein.
Ah non, mais c'est... Non, c'est vrai. Moi, je trouve
non,
ça.
Non, mais en fait, je pense que c'est pas une question de réussite ou pas. Ouais. C'est une question d'épanouissement.
Okay.
Parce que ça aussi, je l'observe souvent. Je sais pas si c'est de la jalousie, mais en tout cas, le ressentiment que peuvent avoir. Des mecs face à des femmes avec qui ils sont, c'est plutôt en termes d'épanouissement professionnel, je trouve, que de réussite. C'est qu'il y a un objectif, il y a des objectifs très clichés de réussite financière, hyper écrasante, que souvent on a inculqué à ces mecs quand ils grandissaient, mais il y en a quand même pas mal qui s'en sont défaits. Mais par exemple, moi j'ai connu aussi, c'est pas tellement dans mes couples à moi, mais j'ai connu pas mal de nanas qui passaient leur vie à s'excuser d'aimer leur boulot, quoi.
Ouais.
Tu vois.
Ouais.
Et de mecs qui disent, eh bah ouais, bah, comme tout le monde, moi aussi ça me fait chier d'aller bosser. Et quand elles disaient, moi non, en fait ça me fait pas chier d'aller bosser, c'est plutôt ça qui les faisait rager, c'est le fait qu'elles aient fait tout ce travail, elles, de réflexion et de vrai boulot, de comment faire pour que ma vie aille dans le bon sens pour moi. Donc c'est des sacrifices et puis une vraie réflexion, souvent difficile. Que eux n'avaient pas fait, et du coup c'est pas qu'ils leur en voulaient, mais ça les renvoyait au fait que eux c'était pas super bien aligné dans leur vie, et ils arrivaient pas à l'exprimer autrement qu'en le rejetant sur elles, quoi. En disant et tu sentais, du coup c'était de l'amertume, c'est pas de la jalousie, c'est vraiment une amertume, une petite aigreur, qui est pour moi vraiment un trait de caractère qui rend tout le monde nul.
Ah ouais,
l'aigreur, tu vois, on dit toujours, ah, le pire défaut c'est la radinerie, c'est machin. Je suis pas d'accord, c'est l'aigreur.
Ouais.
Quelqu'un d'aigre qui a rien à en tirer, quoi.
Ah ouais.
C'est que
ouais,
tu pourras jamais venir à bout de sa petite amertume face à son petit somme.
Ouais, en fait. Son somme, ah ouais. Son cynisme aussi.
Ouais, de dire, eh ben oui, j'imagine que toi, dans ton boulot, c'est super. Et tu fais,
oula.
Calme-toi, change de boulot, tu vois, en fait.
Ouais.
Me fais pas chier.
C'est
on
clair.
Est adulte, si vraiment t'aimes pas ta vie, tu peux aussi faire en sorte que ça aille mieux, tu vois.
Ouais.
Donc. Moi, c'est plus ça que je trouve embêtant, plus que la jalousie, parce que j'ai plutôt toujours été avec des mecs qui étaient hyper contents pour moi que ça marche, parce que je pense aussi qu'ils projetaient le scénario inverse, qui était une artiste qui ne réussit pas, qui du coup
tombe
va très
dans
mal.
La dépression, ouais.
Donc ils se disaient, ok, coup de bol, ça marche plutôt bien pour elle, donc au moins elle n'est pas sombre, tu vois. Même si ça n'empêche pas du tout d'être sombre, d'ailleurs. Mais, mais ouais, moi ce que je fuis comme la peste, tu vois, presque ça pourrait être la question où je demande l'addition à un date, si jamais j'ai ça comme info dès le début, c'est bah moi je bosse dans une boîte de cons, je déteste tout le monde, je fais, ok, merci, bonsoir, terminé,
merci,
salut.
Ouais.
Je ne me trimballe pas le fardeau de quelqu'un qui déteste sa vie,
ouais.
Ou alors qui a réussi hyper bien à identifier les points à régler pour que ça s'arrange, mais quelqu'un qui prend comme une fatalité le fait que de toute façon c'est tous des pourris, c'est toujours rien qui réussit, c'est machin. Pour moi c'est la peste, ça.
C'est un discours très loose.
En fait très sûr de soi malgré tout.
Oh,
c'est-à-dire
oui.
De pas laisser la place à l'éventualité que les choses s'arrangent, qu'il puisse y avoir du bon à la clé, tu vois, et de se dire en gros tous de la merde, tous des salauds et tout. Mais moi j'en veux pas du tout de ça. J'ai plein de défauts aussi, mais je sais aussi ce qui moi me tire vers le bas et me mine. Et ça, c'est vraiment un truc qui me plombe. Donc, non merci.
Ah ouais.
Ça, non merci.
Ça, non merci.
Ouais.
Ouais, c'est marrant ce que tu décris, ça fait un peu penser à mon père d'une certaine manière. Alors, parce que lui, il faisait ce qu'il aimait, mais il rencontrait tellement de difficultés professionnelles. Il était producteur de films d'auteurs étrangers, d'art et d'essai, donc ça a marché pendant un temps, puis avant la crise et après la crise, il a continué à avoir des films en sélection à Cannes et tout, mais ça rapportait pas du tout d'argent. Et il a commencé à devenir aigre, et notamment parano. Et notamment parano par rapport à la France. Enfin, il est fils d'immigrés et il est juif. Mais il y avait ce truc très... Lui et son frère de toute façon, en tant que juif. Enfin, ils avaient exagéré ce trait-là. Mm-hmm. Donc, moi, j'en fais des blagues aujourd'hui. Mais parfois, ça vient limite me consoler. Genre, je l'utilise, je lui reprends ça et je m'en veux. Et genre, quand je rate un casting ou que je n'obtiens pas quelque chose, je fais « Ah, c'est parce que je m'appelle Bernstein ». Et je vois que c'est mon père, parce que c'est pas... Parce que c'est une exagération parano. Souvent, ça serait trop bien que ce soit la réponse,
si
quoi.
C'était ça.
Si seulement c'était ça. Ça a peut-être été ça pour une ou deux fois en tout, mais en fait, au final, pas si souvent. Je sais pas si j'ai souffert d'antisémitisme clairement.
En tout cas, c'est intéressant que ta mère, fille d'antisémite, ait fait des enfants avec un juif.
Ah bah ouais,
ça régalerait un psy de savoir ça, c'est génial.
Ah ouais, bah voilà, c'est ce qu'elle a cherché. Ma mère, elle a appris à 14 ans, donc elle était juive par sa mère. Par hasard, pendant mai 68, parce qu'à la télé, il parlait de Cohn-Bendit, juif allemand, et donc elle entend le mot et elle a trouvé la bonne personne à qui demander ça veut dire quoi, juif, et elle lui a dit ça veut dire nous. Et après, elle a fait toute sa vie des... Mais ma grand-mère, du moment où ma grand-mère était convertie au catholicisme, tu vois, Noël, c'est une période hyper sensible en ce moment parce que mes parents ne voulaient pas fêter Noël, mais aussi parce qu'ils étaient communistes et que c'était une fête commerciale, blabla. Mais on allait chez ma grand-mère qui me montrait sa crèche et me montrait le petit Jésus et qui était là, heureusement que t'es une fille parce que si t'es un garçon, j'aurais pas supporté qu'il te... J'aurais tout fait pour que ta mère fasse que tu sois pas circoncis. Enfin, donc, une peur. Et c'est vrai que la période de Noël, justement, on parlait un peu de dépression, est assez compliquée. Toi, tu vis comment les fins d'année, les fêtes? Ça va?
Moi,
c'est
j'adore.
Joyeux,
j'ai un côté très téléfilm de Noël. Je sais pas, ça marche très bien sur moi. J'ai la chance d'avoir une sœur que j'adore.
Ouais.
C'est super. En fait. Moi, j'adore ça. Et puis, j'adore faire la bouffe. Donc, c'est trop cool. Bien. J'adore manger. Et j'adore tu sais, la période entre Noël et le Nouvel An où tu sais pas quelle journée.
Ouais, c'est
tu
vrai.
Sais, où tu dis, on est le 27, le 30. Ouais. Je sais rien. Je n'ai fait que rester dans mon canapé. Et avec un peu de chance, il fera très, très froid dehors. Et c'est pas tant que j'adore être avec plein de familles, parce que j'ai pas du tout plein de familles. Mais j'aime bien le flottement de ce moment où on se met tous d'accord sur le fait qu'on n'attend rien les uns des autres pendant 5 jours. On peut. Rester en pige et regarder des films.
Ouais.
Tu vois, ça, j'adore. Et après, c'est double peine, la rentrée de janvier. Moi, je la trouve 1000 fois plus déprimante que celle de septembre.
Ah oui, oui,
parce
que
là, on y retourne, quoi. Et puis, on est en janvier.
Ouais.
Et là, tu fais, ah, c'est vraiment fini.
Ouais.
Et puis, en plus, là, ça va être un janvier merdique. Tout est fermé, on peut rien faire. Donc, et où tout le monde est méga angoissé. Donc, je suis pas du tout impatiente, mais Noël, oui.
Noël, oui. Mais moi, pour la première fois cette année, je me suis acheté un sapin et je l'ai mis une guirlande dessus. Et donc, c'est à 31 ans, je...
Attends, est-ce que tu veux commenter mon sapin?
Ah, mais il est sublime. Il est tellement
c'est mon faux
beau.
Sapin. Je l'ai depuis presque 10 ans.
Mais non.
Il se déplie, tu vois, en 3 morceaux. Clac, clac, clac. Tu le refermes dans un carton comme si c'était un très gros parapluie.
Waouh.
En fait, les branches se rabattent. C'est un faux.
C'est un faux.
C'est un faux. Je sais, il faut le toucher pour le croire.
Tellement...
Regarde le pied, un indice.
Ah oui,
c'est vraiment
en effet,
un faux.
C'est comme un cintre.
Bah ouais.
Mais alors, pour le décrire aux gens qui nous écoutent,
il est sublime.
Il est très beau, il est de toutes les couleurs, il est sublime. Il y a plein de roses, de violets, de bleus. Il est très punk rock. Enfin, il y a un côté un peu carnaval avec une tête de mort verte. Et tout en haut, il y a Elvis Presley. Ouais. Il y a un bagel rose.
C'est vrai.
Il y a un petit soldat russe.
Mais il est faux. Voilà.
Et il est faux.
Ouais, parce que vraiment, ça me fait trop chier d'acheter des sapins.
Bah, en même temps, c'est vrai que c'est du nettoyage. Après, ça sent bon.
Bah, plus trop, tu sais, les Nordman, ils sentent rien. Hein.
Oui, c'est vrai qu'ils sont tellement assez
pisés. Non, moi, ce qui me saoule, c'est les décembre. À chaque fois, je me le traîne jusqu'en avril. Et il est tout sec, tout pourri. Et tous les jours, il me regarde avec un air plein de reproches.
Ouais.
Genre, Eva, tu m'as toujours pas descendu et on est en mars.
Oh.
Et je me dis, oh putain, allez, le sac à sapin, je vais en foutre partout dans la cage d'escalier, ça va me faire chier, je vais pas savoir où le mettre parce que je sais jamais où est le cimetière à sapin et tout. Donc, ce sapin réutilisable, j'ai lu que. Parce que les gens disent, ah, tu te crois plus maligne que tout le monde, tu savais que l'impact du sapin en plastique, c'est qu'il faut au moins 10 ans pour le rentabiliser. Et ben j'y suis presque. À partir de dans 2 ans, c'est empreinte blanche. Donc, foutez-moi la paix et je compte le garder jusqu'à ma mort.
Ah ouais, il est trop, trop, trop beau avec la tour Eiffel.
Mais c'est vrai qu'il sent rien.
Ouais, mais il brille de mille feux.
Et puis, tu sais, quand j'étais petite, dans les films américains, quand ils font Noël, ils ont des plafonds, des sapins qui vont jusqu'au plafond.
Ouais.
Et moi, mes parents, ils avaient toujours, tu sais, les sapins que t'achètes, je sais pas, chez le fleuriste qui faisait ma taille, quoi.
Ouais, ouais,
qui faisait
ouais.
un mètre. J'étais dégoûtée. Je disais, mais quand est-ce que nous aussi, on a le sapin magnifique où les enfants font la ronde autour, le sapin de casse-noisette. Et donc, ce sapin-là, je sais pas, il fait bien 2 mètres, on est d'accord.
Ah ouais, il fait bien 2 mètres.
Ouais.
Un peu à l'américaine. Ça, c'est vrai que c'est génial. Une fois, je suis partie avec mes parents à New York pour Noël et c'est du délire.
Ben ouais.
C'est vrai que c'est, des, c'est...
Et je sais pas, les très grands sapins, ça me fait toujours un truc, tu vois, le sapin géant de Galerie Lafayette, par exemple.
C'est beau.
Moi, ça marche toujours sur moi. Ah je continue même maintenant à me dire, wow, là, c'est vraiment Noël.
Ah bah carrément, les galeries, les animations des galeries, les vitrines, c'est beau. Je sais pas s'il y aura cette année,
je les ai vues.
Elles y sont.
Je te recommande celles des galeries.
Elles sont belles.
Assez magiques.
Ah ouais. T'as dessiné, non?
Non, elles sont magiques, juste elles sont... Enfin, c'est beau.
Ah ouais.
Moi, ça me fait trop plaisir. Ça, l'odeur de la clémentine, c'est bon, c'est Noël.
Mais c'est vrai que c'est important de célébrer les saisons, en fait.
Ouais. C'est vrai, en fait, c'est aussi ça. On célèbre, ok, il fait froid, mais il n'y a pas des milliards de trucs cool l'hiver.
Ouais.
Il y a mon anniversaire en janvier, heureusement. Mais sinon, c'est quand même un peu nul.
Ouais.
Il fait nuit à 5 heures, enfin, c'est pourri, quoi.
Mais ça sent bon, cela dit, je trouve, l'hiver. L'odeur du froid est assez agréable, plus que... non, il y a des... Et c'est vrai que, je me disais, c'est pour ça aussi que la mort, je sais plus, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, ils célèbrent, ils ont des fêtes de la mort, enfin, Halloween, quelque part. Et c'est vrai que Noël, c'est un peu ça, c'est aussi l'idée de... Allez, on rentre dans le froid avec joie, quand même, parce que c'est important, parce que c'est beau, les cycles, en fait.
Ouais.
Mais non, c'est vrai que pour reparler un petit peu d'amour, parce que je me suis égarée, mais c'est vrai que ton sapin nous a scotché.
C'est une forme d'amour, hein, ouais, l'amour pour mon sapin.
Quand je lisais Culotté, mais je me disais, mais comment ça se fait que je découvre l'existence de ces femmes déjà? Je t'aime, mais pourquoi je les connais pas? Et pourquoi j'ai pas des... Mais en fait, je me disais, mais j'étais en colère un peu. Je me disais, mais pourquoi j'ai pas vu 3 biopics différents déjà au cinéma sur chacune de ces femmes?
Mais ne me demande pas à moi, c'est mon interrogation perpétuelle. Surtout qu'il y en a certaines où le film est écrit, en fait. Hein, leur vie suffit, en fait. T'as qu'à la faire telle quelle, et puis c'est bon, on est parti.
Grave.
Plutôt que faire une énième biographie de Christophe Colomb, quoi. Tu vois, c'est bon, je pense qu'on a compris. Mais parce que... Parce que l'histoire est racontée par des hommes.
Ouais.
Ils ne cherchent pas plus loin.
C'est sûr.
Et qu'ils se disent, comme le masculin est le neutre, ils se disent, oui, mais ça veut dire raconter une histoire de femme.
Ouais.
Donc, est-ce qu'on va réussir à s'identifier? Tu vois?
Ouais.
Nous, on arrive assez bien à s'identifier à des hommes.
Ah bah oui.
Et tant mieux, puisque sinon, on ne lirait pas de livre, en fait.
Ouais.
Donc, c'est plutôt bien. Mais ouais, le temps de venir à bout du masculin neutre.
Et t'as pas justement rencontré des gens qui, après avoir lu ton livre, tous se sont dit « Oh, mais en fait, elle, on va faire un film, on va faire une série. »
Non, après, il y en a certaines dont on parle quand même pas mal, tu vois. Cette année, par exemple, il y a au moins 3 BD qui sont sortis sur Nelly Bly. Je dis pas du tout que c'est grâce à moi, mais simplement, globalement, il y a un mouvement général de se dire, au-delà de l'engouement, se dire « il y a tout un vivier d'histoires inexploitées ». Il y a un gisement de films qui nous attendent et les gens commencent un peu plus à se dire il y a de quoi faire, en fait.
Mais Nelly Bly, quoi, c'est la journaliste, c'est incroyable.
C'est vraiment ma reine.
Incroyable. Et alors elle, je me dis, mais il faudrait une série entière, parce que quand tu vois toutes les étapes de sa vie, même elle est comédienne, qu'elle se fasse passer pour une folle, pour investiguer dans un hôpital psychiatrique, mais c'est un génie, quoi.
C'est un génie, c'est vraiment un génie, puis elle a 1000 vies.
Ouais,
et à chaque fois qu'elle a lancé un nouveau truc dans sa vie, elle l'a fait d'une manière complètement dingue.
Ouais.
Elle s'est dit, allez, je fais un voyage, moi je vais le faire en ballon, et machin. Et puis à chaque fois qu'elle fait un truc, c'est d'une manière extrême. Je trouve que c'est un trait de caractère tellement charmant, quoi. Elle me fascine, cette femme.
Ouais, et j'ai adoré aussi découvrir, grâce à toi, cette actrice.
Eddie Lamar. Ouais.
Et après, je suis allée regarder des photos d'elle. En effet, magnifique. Et c'est vrai que c'est ce qui est terrible quand tu lis, c'est le fait qu'elle soit pas crue, qu'on la croit pas, alors qu'elle a découvert le wifi, quoi, en fait.
Mais elle est un petit peu trop belle pour être crédible.
C'est ça. Ouais. Et c'est vraiment. Et en plus, elle est difficile. C'est-à-dire qu'elle est difficile. On lui reproche son sale caractère.
Classique.
Mais c'est fascinant et. C'est fascinant. Après, est-ce que dans toutes ces histoires, ce que je trouvais hyper rafraîchissant aussi, et plus j'en parle avec toi, je vois ça, c'est que tu fasses un point d'honneur à l'ambition. Enfin, il y a quelque chose d'assez... je sais pas si c'est américain ou si c'est... Il y a un côté conte, c'est dans tes histoires... une fois que les héroïnes ont surmonté leurs obstacles et compris leur talent qui est souvent lié finalement à là où elles peuvent être le plus faibles, ben ensuite elles se donnent les moyens d'accomplir, même si parfois ça finit très mal, elles finissent seules ou elles, mais réaliser son désir, c'est au centre et c'est hyper galvanisant et je trouve que parfois on manque aussi de ces histoires, justement, dans les films ou les séries françaises, parce que c'est un peu vu comme quelque chose de... C'est un peu mis dans la case, ouais, success story ou conte, ou...
Ouais, après, c'est un truc quand même auquel il faut être attentif, c'est que il faut pas non plus valoriser que la réussite, parce que... Ouais. Évidemment qu'avant que les femmes puissent arriver à avoir des vraies réussites qui sont perçues comme des réussites aux yeux de tout le monde, il va falloir qu'il y en ait une cinquantaine qui se casse la gueule parce qu'il y a tout à faire. Et du coup, le risque de valoriser la réussite, c'est que si jamais t'arrives deuxième, bah t'es qu'une merde.
Ouais.
Ça veut dire que, par exemple, si une femme échoue à la présidentielle américaine, c'est les femmes qui ont échoué. Ça veut dire qu'en fait, on pouvait pas être présidente.
Ouais.
Et en fait, au lieu de valoriser tout ce parcours qui t'amène à être la finaliste, et en fait, c'est déjà tellement incroyable, vu les bâtons dans les roues, vu tout ce qui est tellement mille fois plus compliqué, on dit, ouais, mais ce qui est dommage, c'est qu'il faudrait qu'à la fin, tu réussisses, sinon ton histoire, elle n'est pas intéressante. Et du coup, il ne faut pas trop... tu vois, il y a un peu une mode aussi, moi, qui parfois me questionne autour, tu vois, un peu des trucs de girl boss, des meufs qui montent des business, qui sont super successful, et c'est super d'encourager ces modèles-là, mais attention à ne pas valoriser que le résultat, parce que des meufs qui essayent de monter des trucs et qui n'y arrivent pas, c'est la majorité, en fait.
Ouais.
Et... le fait que ce soit sous condition, c'est sous condition que ça finisse par marcher, ou que, tu vois, le truc un peu, une logique un peu en marche, de se dire quand on veut, on peut aller.
Oui, très empowerment, très capitaliste.
Fait, ouais,
ouais, oui.
Moi, je trouve ça un peu toxique, ce truc d'empowerment permanent, du coup, de refus de la vulnérabilité.
Absolument,
En fait, ne pas non plus décider de t'affranchir de toutes tes oppressions.
Ouais.
Donc c'est un discours un peu à double tranchant, je trouve.
Ouais, c'est vrai. Mais ce qui est... c'est après, ça dépend là où on met le curseur de réussite. C'est que, justement, je trouve que tu arrives hyper intelligemment à modifier. Parce que finalement, dans toutes tes histoires, il n'y a pas... vraiment de... c'est rare les prix ou les cérémonies. Il y en a quelques-unes qui sont décorées, mais par exemple, je me souviens, celle qui fait des miniatures. Enfin, ce que tu arrives à mettre en valeur, c'est sa fantaisie, notamment le dessin final où on voit l'intérieur de la maison et son œil, ou même le petit dessin où tu montres qu'en fait, elle recoue avec des aiguilles. Bah, en fait, c'est ça qui est... enfin, c'est ça qui est...
Moi, ce que je trouve merveilleux chez elle, c'est pour ça que j'adore cette femme, c'est qu'elle a été mise dans un salon comme une dame mondaine qui sait rien faire et qui est bête, à part qu'elle a un talent artisanal extraordinaire et qu'elle est sûre que ça peut servir à quelqu'un et qu'on a dénigré en permanence ce qu'elle sait faire en disant que c'est des trucs de bonne femme.
Ouais.
Et elle arrive vraiment dans l'épicentre du truc le plus masculin possible, c'est que la police est obligée de se servir de son travail de mamie qui fait du crochet et est obligée d'admettre que, putain, c'est vrai que c'est quand même vraiment bien fait et c'est hyper pratique.
C'est génial.
C'est merveilleux. Et en fait, c'est une femme qui se dit, en fait, ce truc que je sais faire mieux que personne, ça a de la valeur. Je sais faire quelque chose de bien, quoi. Je suis pas une tapisserie, quoi.
Ouais.
Et moi, c'est ça qui me bouleverse. C'est les parcours où des femmes se disent, c'est pas vrai ce qu'on me dit depuis le début, qui est que je sers à rien, que je suis une merde, en fait. En fait, j'ai un talent extraordinaire. Malgré tout ce qu'on essaye de me dire. Moi, ça me fout par terre à chaque fois, ce genre de destin.
Ah ouais, c'est...
Et particulièrement elle, où ça démarre à 50 ans, quoi. Quelle
Mais
histoire.
C'est ça, c'est incroyable. Fou. C'est fou. Et puis, comme tu dis, le fait d'allier quelque chose d'aussi féminin et ténu et petit et délicat et précis au crime, au sang, et puis d'avoir cet instinct de... enfin, quand même, de dire, non, il ne faut pas salir une pièce à conviction, une salle de crime. Enfin, c'est vrai que c'est...
Elle, pour le coup, on aimerait bien un biopic sur elle.
Ah bah ouais, on aimerait un biopic, mais même des, même une série.
Bah, ça dit, c'est arabesque.
Oui, c'est ce que t'écris.
Ouais, en fait, c'est elle qui a servi d'inspiration pour Jessica Fletcher.
Mais on voudrait son nom, en fait. On voudrait son vrai nom, en fait. Puis moi, ça m'a redonné envie d'acheter des maisons de poupées ou enfin de...
Je regarde des Columbo.
Ouais. Et la seule vraie, finalement, la plus romantique, la plus amoureuse de tes personnages, c'est pas mal Peggy Guggenheim, quand même.
Ouais, alors elle, c'est... Il y a quelque chose de... C'est vraiment, moi, celle à laquelle je m'identifie le plus, c'est qu'elle est, elle est tellement obnubilée par le beau.
Ouais.
L'art la transcende tellement qu'elle finit... C'est une groupie pour moi. C'est exactement les groupies des groupes de rock.
Ouais.
C'est que c'est pas une starfuckeuse.
Ouais.
C'est qu'en fait, elle est tellement emportée par l'amour de l'art qu'elle englobe l'artiste avec.
Ouais.
C'est qu'elle couche avec tous les peintres parce qu'elle est fascinée par eux, parce qu'elle aime tellement l'art.
Ouais.
Et donc, elle a été traitée, mais comme une merde. Vraiment par la société mondaine qui l'a traitée de tous les noms. Il y a une romancière que j'aime beaucoup qui s'appelle Edith Wharton. Et j'ai lu des choses, en fait, horribles qu'elle écrivait sur Peggy Guggenheim. Un peu pour avoir des cookies, quoi, tu vois, pour être la meuf qui taille les autres meufs et qui l'a traitée de salope, quoi, en gros. Alors qu'elle avait une démarche tellement pure, et puis surtout, les artistes lui doivent tellement. Elle a tellement financé tout le monde. C'est vraiment, elle avait un œil incroyable. C'était une vraie critique d'art, tellement avant-gardiste. Enfin, elle venait d'une famille qui aimait que l'art à papa, et elle avait compris le cubisme à 21 ans, quoi. Et elle a décidé de mettre tout son fric et tout son amour dans le fait de développer l'art. Et on lui doit tellement. Les collections de Peggy Guggenheim, elles sont folles. Enfin, si un jour les gens ont la chance de voir sa fondation à Venise, qui est sa maison en plus, enfin, c'est son salon avec les œuvres qu'elle avait. Elle en a fait un musée et ça transpire l'amour de l'art partout. Tu sens que c'est vraiment une femme qui devait se mettre à pleurer en voyant un tableau. C'est sûr, elle est incroyable. Elle a une vie de merde en plus. C'est vraiment. C'est la meilleure. Vraiment, Peggy, c'est la.
Ouais, elle est très touchante et courageuse et
Et puis elle est une femme brillante, quoi.
Brillantissime. Une modestie, une intuition.
Mais mauvaise époque, quoi. Tu vois, parce que c'est pas du tout un modèle qui pouvait trouver sa place. Elle était en plus, elle pour le coup, elle était un peu abonnée aux salauds qui la tapaient et tout. Enfin, elle se tapait que des connards, quoi. Quand même, elle a été avec des connards toute sa vie.
Donc, puis les artistes aussi, parfois, ça veut pas. Enfin.
Oui, c'est un milieu où les femmes n'ont pas une vie très tendre. Hein. T'es soit une muse, soit un modèle, soit dans son cas à elle, une banque.
Ouais.
Mais globalement, il faut pas interférer, il faut pas entrer dans la lumière, quoi.
Ouais.
C'était quand même.
Puis on revient vachement en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a plein de féministes qui se posent aussi des questions autour du terme de muse et ce qu'on a mis derrière et ce qu'il y a d'enfer.
Je recommande Vénus et Pilate de la chatte. C'est mon podcast là-dessus.
Ok.
Ouais. Sur la déconstruction dans l'art occidental, sur les femmes. Pourquoi est-ce que c'est si misogyne l'art occidental et les artistes. C'est passionnant.
Ah, mais je vais direct aller écouter. Est-ce que tu l'as vu, Nanette, d'Anna Gatsby?
Bien sûr.
Ouais. Ce qu'elle dit sur Van Gogh aussi, c'est assez incroyable. Et est-ce que toi, justement, c'est quelque chose où tu dis que tu ressembles un peu à Peggy? Les hommes qui t'ont attirée dans ta vie, est-ce que c'était des hommes que tu avais besoin d'admirer?
Si je les admirais pas, au bout d'un moment, je les aimais plus.
Ah.
Je me suis rendu compte après coup. Que c'était... Mais je pense que ça, on est vraiment... Ça peut pas du tout forcément admirer leur réussite, mais il faut te dire, waouh, quand il cloue le bec de quelqu'un dans les conversations, qu'est-ce que je l'aime, qu'est-ce que je suis admirative de son intelligence. Moi, il faut un peu que j'ai l'impression que ça me tire vers le haut.
Ouais.
Et qu'il y a quelque chose où, quand je le vois arriver, je me dis, waouh, putain, c'est mon mec.
Ouais.
Quelle classe, quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que si, en plus, ils ont une production artistique que j'aime, c'est quand même un plus. Je pense que sinon, ça peut vite laisser place à une forme de... Ce mot est horrible, mais pour moi, c'est le plus incompatible avec l'amour, c'est la pitié.
Ouais.
Et si jamais j'étais avec quelqu'un qui faisait des trucs que je trouve un peu pitoyables, je pense que c'est ce qui tue l'amour le plus vite, c'est se dire « Ah, le pauvre, c'est un peu nul ce qu'il fait. » Et ça doit être très dur. Ça m'est jamais arrivé. Mais c'est sûr que quand je commence à me dire... En fait, tu t'écoutes parler, tu fais des grandes phrases, mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu creux, que c'est un peu naze.
Ouais.
J'admire plus tellement ton intelligence. Ça sonne quand même un peu le début de la fin. Quoi.
Ouais, c'est sûr. En général, les grandes phrases de même, c'est pas...
Ouais, ou quand tu te dis juste, c'est marrant, je l'ai déjà entendu vraiment 4 fois dire la même chose.
Ah oui.
Et tu commences à sentir un peu le chrono qui se met en marche.
Il récite un texte.
Ouais, ça va pas forcément le durer très très longtemps, quoi.
Ouais.
C'est triste d'ailleurs, je trouve, les moments où tu le sais, tu te le dis pas forcément, mais tu peux dater après et te dire, c'est vrai que ce jour-là, j'ai commencé à me dire que peut-être que... Tu sais, des petits trucs que t'avais pas remarqué avant, Ou tout d'un coup, des choses que tu trouvais adorables commencent à être sans intérêt, ou tu commences à remarquer, je sais pas, bon, chacune ces trucs qui te dégoûtent, mais ouais. Tu vois, des trucs physiques ou des tics de langage, ou voilà, quand l'adorable devient lassant et systématique, que tu dis, je suis un peu marre, bah, ça sent un peu la fin.
Mais, et au début des histoires, c'est plutôt. Est-ce que c'est toi qui as l'initiative ? C'est toi qui remarque l'homme en premier, ou ou tu peux te laisser surprendre par quelqu'un qui va te faire la cour ?
Est-ce que non, c'est moi.
C'est toi.
Ouais. Franchement, je réfléchis à mes. Après, moi, j'ai tout le temps. Je suis jamais célibataire, en fait. Okay. J'ai 16 ans. C'est un vrai problème. C'est qu'à chaque fois, je me dis. Et alors là, je peux dire que maintenant, je vais bien profiter et que machin. Et pff, ça dure. Enfin, c'est jamais arrivé que ça dure plus que quelques mois, quoi. Parce que je crois que j'adore être folle amoureuse.
Ok.
Enfin, comme tout le monde, hein, mais il y a vraiment un. Ça me désespère de voir que je suis autant tributaire de ça, mais sans ça, c'est très vide, je trouve. C'est que vraiment. J'ai un côté assez. C'est presque du bovarisme, quoi. Tu vois, c'est que je me dis, il faut que ce soit extrêmement intense et que je sois vraiment folle, tu vois. Et du coup, j'ai rarement genre un flash sur quelqu'un que je trouve hyper beau et c'est hyper. Tu vois, moi je suis plutôt du genre, on s'est vu vraiment 12 fois, quoi. Mm-hmm. Et après, je me dis, oh là là, il me ment.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Enfin, c'est pas gnangnan, c'est tout. Non, c'est vrai que c'est, je vois tout à fait, ça rend la vie plus colorée, plus pleine, plus. Enfin, le sentiment amoureux, c'est très exaltant. Alors après, peut-être que ça a sa dose de souffrance, mais moi, je suis comme toi. Ouais. J'ai l'impression.
En fait, je suis un peu. C'était un pote qui m'avait dit ça pour se moquer de moi. Je suis un peu amoureuse de l'amour, quoi.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire que quand ça y est, je me dis, oh, non, mais là, je suis. Je te jure, j'ai jamais ressenti ça, quoi. Je suis tellement. Tu vois, ouais. J'adore avoir 14 ans, quoi.
Ouais.
En fait.
Bah ouais.
Ça marche super bien sur moi. Et du coup, je suis vraiment prête à tout. Pour que ça ait lieu après.
Ok. Ouais.
Ah. Je suis assez intense. Et tu sais, moi, je laisse des petits dessins, j'écris des poèmes.
Oh,
je,
wow.
fais des, ouais, je suis vraiment intense. Je pense que si jamais c'est unilatéral, c'est terrifiant même.
C'est arrivé que tu ne rencontres pas de réciprocité, que tu fasses.
Bah, je pense qu'intuitivement, j'avance par
oui,
étapes en
sûr.
Fonction de comment je sens un feedback. Tu vois.
Ouais.
Mais ça doit, pour quelqu'un, ou si à un moment quelqu'un ne m'aime plus, ça doit être terrible. De se dire, comment je vais me débarrasser d'elle maintenant ? Elle est folle en fait.
Oh.
Ouais.
Mais c'est toi qui a des petits, comment, enfin pas des stratagèmes, mais qui séduit avec des petits des gestes.
Je sais pas, je vais demander à mon mec plutôt qu'à moi. Mais, non, mais en tout cas, j'ai pas du tout peur de
témoigner.
Ouais, ouais. Ah ouais, c'est vraiment, je suis une envoyeuse de messages longs,
wow.
De se jeter à l'eau, enfin tu vois, je suis pas du tout. Je sais pas, il y a certainement des gens qui disent d'eux-mêmes. Tu sais, moi, je montre très peu ce que je ressens, je suis très publique de mes sentiments. Moi, je suis exactement le contraire de ça.
Ouais.
Voilà.
Mais je pense que c'est génial à entendre pour les femmes ou les hommes qui nous écoutent. C'est que j'ai l'impression que j'entends beaucoup d'amis filles qui se forcent à se contrôler ou à se calculer ou ne pas exprimer parce qu'elles ont peur de paraître folles ou parce qu'elles ont peur de l'intensité de leurs émotions, de leurs sentiments. Et peut-être de savoir que Pénélope Bageux, elle y va à fond.
Alors moi, j'ai un truc que j'ai appris surtout avec le temps, de vieilles personnes. C'est que, et souvent, c'est rétrospectif, c'est-à-dire que je l'ai su après. En fait, ce n'est jamais arrivé que ce soit unilatéral. Je l'ai appris après. C'est qu'à chaque fois, je me suis dit, moi, je ne vais pas mentir. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais un petit truc pour lui. C'est toujours dans les deux sens, en fait.
Et
je pense qu'en fait, il y a un truc qui est sûrement très non-verbal, qui est que quand tu as l'impression qu'il y a un truc, eh bien, en fait, il y a un truc.
Ouais.
Alors, il ne faut surtout pas mettre ça dans les oreilles de n'importe qui, parce qu'il ne faut pas que ça fasse des gros mecs forceurs. Mais moi, je le sentais qu'il y avait un truc. Mais j'ai quand même l'impression que maintenant, je me rends compte que c'est sûr que c'est toujours dans les deux sens. C'est que si je me dis, bon, il se passe clairement un truc avec genre, ce mec avec qui on n'arrête pas de se croiser, etc. J'ai moins peur du rejet.
Ouais.
Et donc, j'ai moins peur d'y aller, parce que je me dis... C'est impossible que ce soit que dans ma tête.
Oui.
Je le sais. Peut-être que c'est parce que j'ai un super radar à ça, mais...
Je pense que c'est, pour le coup, peut-être quelque chose de, chez les femmes. C'est-à-dire qu'avant d'y aller, quand même, on est moins éduqué avec le sentiment d'impunité de je l'ai c'est ou vrai. C'est facile. Ou... Donc, donc, comme on ne part jamais du c'est acquis avec un méga confiance.
Oui, on est méga prudente a priori déjà. Voilà. Si on s'autorise à le penser,
c'est, ça.
C'est souvent que tous les voyants sont en vert en fait.
Mais oui.
Et qu'on est déjà encore trop prudente. Mais du coup, ça fait que je ne l'aurais jamais fait. Je suis passée à côté de 1000 histoires parce que je n'ai jamais adressé la parole ou pas osé ou pas machin. C'est, évidemment, je l'ai fait 1000 fois. Mais on va dire depuis que je suis adulte plus. Je fonce parce que sans faire des phrases d'agenda de cinquième sans dire on ne vit qu'une fois en fait ça passe quand même vachement vite quoi je trouve tu vois te dire putain c'est pas possible que j'ai déjà cet âge là j'ai eu pas mal c'est la note moins marrante mais j'ai eu quand même plein de gens autour de moi qui ont eu des maladies graves certains même qui sont morts à des moments où c'était vraiment pas du tout prévu qui étaient hyper jeunes et je me dis putain c'est comme hyper con de se dire moi d'ici 10 ans je me vois bien avoir une vie hyper heureuse ou tu vois en fait c'est un peu con d'attendre et surtout j'ai beaucoup moins peur du rejet. Je pense que c'est dans les trucs avec lesquels on se tranquillise avec l'âge, c'est que au pire maintenant quelqu'un qui me dirait alors vraiment je suis désolée mais alors pas du tout en fait je serais hyper piquée hyper quoi espèce de connard et tout ça mais je sais que je m'en relèverai et du coup j'ai un peu moins peur de manger les vestes et du coup j'y vais après je suis pas du tout ni genre une méga dragueuse ou un truc comme ça mais quand vraiment j'arrive pas à me sortir quelqu'un du crâne j'ai beaucoup moins peur maintenant de finir par dire enfin est-ce que je le dis d'ailleurs. En tout cas, faire en sorte que ce soit très clair. Quoi.
Ouais, on se plaît.
Ou au pire, attendre d'être vraiment ivre et le dire. Mais tu vois, en tout cas, le dire, quoi.
Ouais.
Ouais. J'arrive à faire ça maintenant.
Et est-ce que...
Et en plus...
Ouais, pardon.
Non, mais j'y pense en le disant. Ouais. En plus, je trouve que quand tu le fais, au moment où tu le dis, où ça passe tes lèvres et que tu le fais, moi, j'ai presque la vue qui se trouble de sentiment de pouvoir. Je trouve ça grisant de pouvoir, de se dire, je suis en train d'exprimer un truc que je ressens, qui est hyper waouh, la meuf a pas du tout peur de dire ce qu'elle pense. En plus, tu vois que forcément, ça perturbe la personne en face, dans un sens ou dans l'autre, mais tu dis, eh ouais, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas peur de dire ce que je ressens, je suis une femme qui s'assume, et moi, ça me fait tout je me dis, c'est tellement une sensation grisante, plutôt que de se dire, ben, j'attends et j'espère qu'un jour, quelqu'un va venir cueillir mon cœur, se dire ok, ce soir, je lui dis, en fait. Et je trouve que c'est... Waouh, j'ai l'impression, c'est comme si j'arrivais à faire un truc où on m'avait toujours dit que c'était pas à ma portée, genre poser une étagère, tu vois.
Ouais.
Eh ben, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai besoin de personne, je sais faire ça. Eh ben, ouais, qu'est-ce qu'il y a quand je trouve qu'un mec est trop beau ? Au bout d'un moment, je lui dis. Et voilà, je suis cette personne qui dit les choses.
Oui.
Et en fait, je l'ai tellement pas fait pendant les 15 premières années de ma vie amoureuse.
D'accord.
Et juste d'espérer qu'à un moment, quelqu'un allait se rendre compte, tu vois. Je trouve que les histoires, bon, c'est des histoires d'adolescence, mais... Tu passes quand même ta vie d'adulte à essayer de réparer tes histoires d'adolescence, quand même, globalement.
Ouais.
Et moi, vraiment, la thématique de mes histoires d'amour adolescentes, c'est « si seulement ». Tu vois, c'est quand même... j'ai passé mon lycée à soupirer en regardant un mec dans mon cours d'anglais une fois par semaine en me disant « j'aimerais tellement qu'il se retourne et qu'il me regarde
».
En fait, c'est pas possible de passer ta vie d'adulte comme ça.
Ouais.
Donc, après avoir repassé 10 ans de ma vie d'adulte à plus ou moins continuer à espérer que le mec dans mon cours d'anglais allait se retourner et me regarder, et ben à partir de 30 ans, je me suis dit... J'allais lui dire, du coup, je suis assise deux rangs derrière toi depuis le début, du coup, ça te dit pas qu'on...
Il y a beaucoup de choses qui se changent à 30 ans.
Ouais.
J'ai eu 31, mais il y a un an que j'ai eu 30 ans, j'ai eu vraiment l'impression de voir un shift, et notamment autour de la question du plaisir et de la sexualité, en fait.
Est-ce que tu penses que c'est l'âge ou est-ce que tu penses que c'est une époque ?
Peut-être que c'est l'époque.
Parce que je sais pas si c'était 30 ans ou si c'est l'époque dans laquelle t'as 30 ans.
C'est vrai.
Parce que je suis pas sûre, par exemple, que nos mères à 30 ans aient eu un shift.
Non, c'est sûr.
Moi qui ai quasiment 10 ans de plus que toi, c'était aussi à 30 ans, mais c'était parce qu'il se passait plein de choses autour de moi dans la vie à ce moment-là, tu vois. Donc,
moi, ça correspond avec le moment où j'ai commencé le stand-up, où je me suis rendu compte que j'avais envie de jouir, d'avoir des orgasmes, ou en tout cas, où j'avais envie d'être un peu plus en contrôle et un peu plus égoïste. J'ai l'impression que j'avais été très généreuse par rapport aux hommes et à leur plaisir sans... Sans penser à moi, parce que en me disant c'est tellement compliqué de toute façon que
je vais pas les embêter.
Ouais.
T'embête pas.
Ça va prendre des heures.
Non, laisse tomber. Ouais, mais pareil, tu vois, en termes d'époque, est-ce que avant aussi c'était pas ce qu'on valorisait chez une femme ? Est-ce que tu disais pas, enfin je sais pas, moi j'ai grandi avec cette impression et cette idée reçue que pour une femme être un bon coup c'était vraiment une donneuse, quoi.
Ouais.
Tu vois ?
Ouais.
Parce que c'était complètement ça culturellement qu'on nous a toujours renvoyé et que toi en fait on n'a rien à foutre, tu vois.
Grave.
Donc le fait de considérer que t'es une personne active, mm-hmm. c'est déjà tellement, tellement la révolution, quoi. Que je pense que c'est aussi l'époque, parce que les filles qui ont 20 ans maintenant, oui. évidemment qu'elles ont une vie sexuelle un million de fois plus enviable ouais. que celle que moi j'avais à 20 ans, c'est sûr.
C'est sûr.
Tu vois, ou sortie de l'idée qu'à 20 ans, il faut qu'il y ait de l'accumulation mmh. et un peu de la folie. Mmh. Moi, ma réflexion, elle s'arrêtait là. Tu vois, pour moi, mmh. c'était ça, le summum, c'était genre se taper plein de mecs mmh. et que, avoir l'impression que les mecs trouvaient que j'étais un super coup et être bonne. Mmh. En fait, tu vois, quand même, c'était ça. Hein. Et mmh. tu te disais, bah, c'est bon, on dira de moi après coup. Waouh, dis donc, Pénélope, waouh.
Ouais.
Mais alors, moi, ce que j'en ai pensé, peu oui. importe quoi.
Ouais, ouais, c'est clair.
Parce que, comme tu dis, bon, de toute façon, c'est trop compliqué. Et en plus de ça, moi, c'était même plus loin que ça dans le déni. C'est pas important, ouais. en fait, tu vois.
Ouais.
Mais regarde avec quoi on a. Bon, encore une fois, on n'a pas le même âge, mais c'est quand même pas si différent que ça. Regarde avec quoi on a grandi.
Ouais.
Comme. Enfin, tu vois, comme représentation de femmes dans les films.
Puis même de tabou par rapport au mot clitoris. Je crois que c'est 2017, la première représentation du clitoris dans les manuels ouais. scolaires. Enfin, c'est vrai que c'est... On ne savait pas. Et puis même encore, même oui, sur la masturbation, sur plein de choses qui étaient complètes. Et pourtant, j'ai grandi dans un milieu où ma mère était féministe, où je pense que vraiment, pourtant, privilégiée par rapport à d'autres milieux où c'est plus... mal vu ou diabolisé, quoi. Mais, et malgré ça, encore maintenant, je découvre et je me dis... Il y avait tout ce... J'ai l'impression que toute la vingtaine, j'entendais parler de clitoridienne ou vaginale. Il y avait un truc comme ça, tu sais, dans les magazines, dans les trucs. Êtes-vous clitoridienne ou vaginale? Et donc... Et puis, dans les films, le couple qui fait l'amour et la femme qui jouit en faisant l'amour comme ça. Et heureusement, je l'ai dit à ma mère. J'ai eu le courage de demander à ma mère, est-ce que tu as déjà
c'est
eu
vraiment comme ça.
Ouais. ouais. Est-ce que tu as déjà eu un orgasme en faisant l'amour avec un homme? Et elle m'a dit non. Elle me dit c'est pas elle me dit pas pas pendant le pas comme ça, pas et elle m'a fait comprendre entre guillemets vaginal ça n'existe pas et c'est que là maintenant qu'on comprend qu'en fait vaginal ça n'existe c'est clitoridienne mais que c'est une ramification du clitoris à l'intérieur mais enfin donc c'est
ouais puis même la hiérarchie qu'on a créée entre les femmes les vraies femmes
ouais
bon il y a Freud qui disait ça mais au-delà de ça de se dire oui parce qu'il y en a une ça a l'air facile du coup
c'est ça
c'est que ça a l'air d'être pas chiant pour les mecs tu
ben
vois
oui ben oui ça tombe bien
alors que l'autre ça a l'air d'être quand même vraiment casse-couille donc ouais. on va plutôt essayer de leur faire comprendre que elle c'est un peu les relous
ouais, ouais.
Et du coup c'est compliqué c'est le tremblement de terre si tu lui expliques que en fait non on est tout un peu logés à la même enseigne hein. Si c'est nul en fait
ouais
c'est pas très Quel coup difficile à encaisser pour des mecs à qui on a dit ouais. t'as rien de spécial à faire, en fait ta bite suffit tout le temps. C'est super.
Exactement. Ouais.
C'est dur de s'entendre dire.
Ouais. En
j'ai
fait,
peur
non.
que ta bite ne suffise ouais. pas forcément.
C'est clair. Ouais. Et est-ce que cette confiance que tu as aujourd'hui en toi, de te sentir belle et la confiance en toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as eu d'instinct jeune ou c'est quelque chose que tu as appris?
Non, c'est quelque chose que j'ai toujours pas.
C'est vrai. Ah ouais.
Bah, bien sûr, non. Ouais. Non. Ça m'arrive encore, ça m'est arrivé récemment par exemple, d'avoir envie de pleurer en voyant une vidéo de moi. Ouais, tu sais, par cycle, quoi, par phase, comme tout le monde, il y a des phases où tu te dis oh, « je suis tellement dégueulasse, mais c'est terrible, qu'est-ce que je suis dégueulasse ?» Et des matins, au contraire, je sais pas, t'as un glow incroyable, tes cheveux sont sublimes et tu te dis « putain, aujourd'hui, c'est vraiment un jour pour faire des photos, quoi, je suis trop belle. » Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai failli pleurer et j'ai dit à mon mec, je dis « mais c'est horrible, mais je suis tellement horrible. » Et du coup, après, bon, il est très mignon. Donc, mais sauf que ça n'a pas de valeur quand c'est ton mec qui te le dit. Qui ouais. dit « Arrête, mais t'es magnifique. » Et tu fais « Oui, bah évidemment, je suis magnifique. » Tu vois. Mais je trouve que c'est toujours cyclique, quoi. Mmh. Simplement, c'est moins la fin du monde. Ouais. Peut-être c'est ça la différence. Ah. C'est que tu te dis « Putain, j'ai vraiment une sale gueule. » Bon, ben, c'est en ce moment, j'ai une sale gueule. Tu vois, tu te dis pas, globalement, je suis horrible.
Ouais.
Tu te dis, quelle vilaine gueule en ce moment, quel mauvais alignement des planètes entre certainement ce que je bouffe, mon cycle, la pollution, la fatigue, l'âge. Et du coup, vraiment, en ce moment, c'est pas possible.
Alors, petit questionnaire de Proust. La qualité que tu préfères chez un homme?
Je me détesterais de dire l'humour. parce que, évidemment, que s'il est pas drôle, c'est nul. Mais qu'est-ce qui est super? Oh putain, c'est trop dur. Quelle qualité chez mon mec fait qu'il est vraiment super? Putain, c'est vraiment nul, mais il est tellement intelligent.
Ok.
Tellement intelligent. Tout est plus simple avec un mec intelligent.
Wow.
Donc, un peu, s'il peut être intelligent un peu au-dessus de la moyenne, ça, c'est vraiment une super qualité.
Mmh.
Et idéalement, si aussi il peut faire à manger, ce serait génial. Mais à choisir, je préfère qu'il soit intelligent.
Mmh. Et la qualité que tu préfères chez une femme ?
Qu'est-ce que j'ai comme point commun des femmes que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ? Bah pareil, c'est nul, mais en fait, dans un monde où tout le monde est intelligent, tout est plus simple. Mmh. L'empathie, l'intelligence. Mmh. Mes réponses sont tellement nulles, de banalité.
Non, tu rigoles, c'est pas du tout...
Tout le monde dit pas ça, tout le monde dit pas intelligent.
Non. Okay. La plupart des gens, au contraire, ils assument pas forcément de dire intelligence, ils disent gentillesse, il faut que tu sois gentille, donc c'est pas...
Ouais, mais ça va te perdre, tu peux pas être... Si t'es vraiment l'intelligence, pas intelligence dans le sens qui sait plein de choses ou qui est méga cultivée et tout ça, l'intelligence humaine, tu sais, d'être hyper fin. Par exemple, je fais une parenthèse, mais avec mon mec, ce qui est génial, c'est quand on rencontre des gens, je sais que derrière, on va débriefer, pas forcément en mal, mais en trois mots, il a compris les gens, il est hyper fin. Il lit vraiment les gens, il dit oh. Et en plus tu sens que c'est tellement le genre de mec qui doit être du genre à dire tel truc, et tu fais tellement, il est tellement fin psychologue, moi ça j'adore.
Ah ouais.
On n'a jamais fini de débriefer le monde quoi.
Ah
avec
ouais.
Quelqu'un d'intelligent, c'est trop bien. Même si le revers c'est que du coup il lit hyper bien en toi aussi et que aucune de tes ruses ne fonctionne. Il y a rien qui marche. Mais bon.
Le principal trait de ton caractère.
De moi. Qu'est-ce que c'est mon principal? Je suis assez déter. Ouais, voilà.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
Ben, franchement, vu la longueur de mes amitiés, je dirais la loyauté, quoi. J'ai pas d'amis qui aient moins de 10 ans d'amitié, donc mes amis, c'est vraiment... c'est la vie, quoi.
Mmh.
Ouais, la longévité de mes amis, je dirais.
Ton principal défaut ?
Bah, je suis vraiment déter. C'est vraiment compliqué, je suis vraiment super têtue, j'ai vraiment du mal à revenir en arrière. Et ça vient, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à... Enfin, je suis vraiment têtue, mais pas dans le sens mignonne, genre oh, j'ai mon petit caractère, c'est vraiment chiant, quoi. C'est compliqué d'accepter que j'ai eu tort.
Ton occupation préférée ?
Bah dormir, franchement, c'est nul, hein. C'est un peu tristounet, mais qu'est-ce que j'aime dormir, c'est tellement magique.
C'est tellement agréable.
Tout est plus simple, en plus, une fois que t'as dormi, j'adore dormir.
Ah ouais, meilleure réponse ever. Ton idée du bonheur ?
Bah, j'ai envie de dire l'insouciance, mais c'est pas vrai, parce qu'au contraire, je trouve que c'est vraiment te dire... j'ai lu un bouquin d'Annie Arnaud, et je suis nulle pour dire les citations, donc je vais jamais réussir à le dire avec c'est vraiment elle, mais où elle dit que le seul moment où t'es heureux, c'est quand t'arrives à te dire « Waouh, je suis en train d'être vachement heureux en ce moment !» En fait, ça sert à rien si c'est te dire « Je me rendais pas compte, mais à l'époque, j'étais vachement heureux.
Ouais. »
En fait, ça, c'est de la merde.
Ouais.
Mais c'est très très dur de dire « Putain, en ce moment, tout va bien, en fait, je suis vraiment méga heureux. » C'est trop dur. Et donc, je dirais que c'est dans les moments où t'arrives à t'en rendre compte. C'est que t'es... Donc c'est le contraire de l'insouciance, quoi. C'est avoir méga conscience que tout va bien en ce moment. Et là, t'es heureux.
Ton état d'esprit actuel ?
Ben, je suis super énervée. Voilà. J'aimerais bien arrêter d'être énervée. Et en fait, j'aimerais bien arrêter de savoir ce qui se passe autour de moi, parce que ça me rend folle. Et en même temps, quand je ne le sais pas, j'imagine que c'est encore pire. C'est-à-dire que si jamais j'arrête de lire les news, par exemple, pendant 2 jours... Je me dis, oh putain, je n'ose même pas regarder, ça va être tellement horrible. Et donc, c'est encore pire. Je voudrais bien être capable parfois d'avoir un cerveau en pause et arrêter d'être folle de rage tout le temps.
Comment aimerais-tu mourir ?
Très, très vieille. Mmh. Oh là là, tellement vieille. Vraiment, je m'en fous d'être vraiment un vieux sac. Mais j'aimerais trop vivre super vieille. Et avant, je m'en foutais. J'étais très lyphase, Dai Young et tout. Et maintenant, je fais hyper gaffe à ma santé parce qu'en fait, j'ai envie que ça dure trop longtemps. J'adore ma vie. Et du coup, j'ai arrêté de fumer et tout. Donc, des trucs super long-termistes en me disant, ah non, moi, si je peux gratter 5 ans de plus à la fin, je fais tout ce qu'il faut pour... J'aimerais trop être très vieille.
Merci, Pénélope. Ah, Pénélope, quelle femme incroyable. Je devais la libérer à la fin de l'enregistrement, elle devait filer, mais j'aurais pu continuer des heures à discuter avec elle. Pas vous ? Est-ce que cet épisode vous a donné envie de pousser des « wow », d'être impressionné par la personne que vous aimez ? Ou est-ce que Pénélope vous a convaincu d'aller déclarer votre flamme et d'exprimer vos sentiments à la personne de votre cœur ? Dites-le-moi sur Apple Podcasts, sans oublier de mettre les 5 étoiles. D'ailleurs, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas lu un courrier des auditeurs. Je vais lire celui d'Hélène Cohn, qui m'a envoyé un DM sur Insta. Et je crois que c'est elle qui a posté cet avis sur iTunes, sous le pseudonyme de Coachello1301. Je vous le lis. Titre à écouter. Rosa pétille et nous plonge dans des discussions de tout horizon avec ses invités.
Son naturel, sa sincérité, sa spontanéité sont rares. La bienveillance est de mise, on a envie de participer à la discussion et de rajouter ses commentaires. Pas besoin d'être d'accord avec tout ce que l'on entend, le tout c'est d'écouter les autres pour ouvrir son esprit. Merci Rosa. Merci à toi Hélène, alias Coachello 1301. D'ailleurs je pense à un truc, je remarque que les femmes se mettent beaucoup plus la pression que les hommes au moment du questionnaire de Proust à la fin, vous avez vu ? Même Pénélope Bagieux, elle trouve ses réponses nulles, se discrédite, alors qu'aucun mec, jamais 0,0 gars que j'ai invité dans le podcast n'a répondu « je sais pas, c'est peut-être de la merde, mais l'intelligence, ouais, est-ce que c'est une réponse ?» Non, c'est nul. Qu'est-ce que les autres ont dit ? C'est ouf. Même Pénélope Bagieux, forte, déterre. Pénélope toujours maquée, dit-elle. Ça me fait un peu peur. J'ai peur qu'il y ait deux profils, en fait. Les femmes toujours maquées et les femmes toujours célibataires et qu'on reproduise sans cesse qu'on s'engouffre dans les habitudes du couple ou de la solitude et que ce soit très dur d'en sortir et de changer de modèle. Qu'en pensez-vous ? Pénélope dit aussi que ses amis sont loyaux et qu'elle les a depuis longtemps. J'espère qu'elle laisse la place aussi à de nouveaux amis et qu'on se reverra. En fait, toutes mes invitées de cette Winter Edition, je rêve de partir en vacances avec elles et qu'elles me proposent l'été prochain. Rosa, tu veux passer ? On a loué une grande maison en Sicile, on reçoit plein d'amis, si ça te dit de venir 4-5 jours. Et moi, hop, 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 un week-end chez Marina, quelques jours chez Laura, une semaine chez Élise, une virée avec Pénélope. Ou moi, je rêverais un jour d'avoir un mec qui cuisine. On aurait un bel appart, grand, avec plein de chaises, des trucs fonctionnels. Et une fois par mois, le vendredi, on ferait une sorte de Shabbat laïque. Nos enfants liraient un petit texte en hébreu puis en français, donneraient leur interprétation des derniers événements, l'incidence de décisions politiques dans leur petite vie. Le tout devant nos amis émerveillés, tous les mois, des amis différents, puis qui reviennent. Les Bagieux, les Goldfarb, les Domange, les Rollman. Et on se disputerait jamais et on rirait beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et dernière chose, surtout, lisez Offrez les culottés.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.